septembre. Ici Stephen Zurbinski. Voici les nouvelles. Eh bien, c'est fait. Le super ministre caquiste Pierre Fitzgibbon a confirmé au cours de la dernière heure son départ de la vie politique. En point de presse à Rimouski, le premier ministre François Legault a affirmé d'entrée de jeu que le Québec a été chanceux de bénéficier de ses services durant 6 ans. Il aura notamment été l'instigateur de la filière batterie, selon le premier ministre. M. Fitzgibbon dit quitter la tête haute avec le sentiment du devoir accompli. Il affirme qu'il était prêt à passer à autre chose, même si beaucoup de choses restent à faire, selon lui. Concernant celui ou celle qui va remplacer M. Fitzgibbon, François Legault s'est contenté de dire qu'il va présenter un ajustement ministériel demain en après-midi. On écoute M. Legault ce matin.
C'est une de mes grandes fiertés d'avoir réussi en 2018 à convaincre un homme de ce calibre-là de venir en politique. Ce qui est vu souvent par le monde des affaires comme étant un peu une folie. Je pense que le Québec a été chanceux d'avoir Pierre comme ministre pendant 6 ans.
Et selon le chroniqueur politique du 98.5, Jonathan Trudeau, tout indique que c'est la ministre Christine Fréchette qui remplacerait Pierre Fitzgibbon à l'économie et à l'énergie. Un autre collègue reprendrait le dossier de l'immigration qui serait laissé vacant par Mme Fréchette. À surveiller également aujourd'hui, économie, le taux directeur qui devrait être baissé à 4,25% par la Banque du Canada, selon de nombreux analystes. Il s'agirait d'une troisième baisse consécutive d'un quart de point. Une nouvelle qui serait bien sûr accueillie, notamment par ceux et celles qui doivent rembourser une hypothèque à taux variable. Le taux directeur a été pendant plusieurs mois à 5%, ce qui a permis de freiner l'inflation qui se situe aujourd'hui dans la fourchette cible de la Banque du Canada. Le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, demande à Via Rail d'apporter des changements dans la foulée de la panne de train qui a causé un important retard en fin de semaine. M. Rodriguez a rencontré la direction du transporteur hier et a fait plusieurs demandes. Là-dessus, Mathieu Paquette.
Selon Pablo Rodriguez, il est inacceptable que des passagers se soient retrouvés coincés pendant 10 heures à bord d'un train en panne samedi entre Montréal et Québec. Pour s'assurer qu'un événement du genre ne se reproduise plus, Via Rail devra fournir un rapport indépendant sur ce qui s'est passé, améliorer la formation de ses employés et revoir ses procédures en cas de panne. Le ministre Rodriguez a notamment fait valoir que le transporteur doit tenir ses passagers mieux informés lors de telles situations et qu'il doit s'assurer qu'ils ont accès aux services de base même pendant une panne. Rappelons que samedi, un train faisant la liaison Montréal-Québec a été immobilisé pendant 10 heures après avoir connu 2 problèmes mécaniques consécutifs. Via Rail a présenté ses excuses aux passagers touchés et leur a promis un dédommagement. Ici Mathieu Paquette de la presse canadienne.
Et en terminant, un commerce de Dorval dans l'ouest de l'île de Montréal a été la cible d'un incendie criminel la nuit dernière. Peu après 3 heures du matin, les services d'urgence ont été prévenus qu'un bruit d'explosion avait été entendu sur l'avenue Meloche près de l'avenue Guthrie. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils ont remarqué un début d'incendie, comme l'indique ici l'agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole pour le SPVM. On l'écoute.
D'incendie qui a rapidement été maîtrisé par les pompiers de Montréal suite aux vérifications qui ont été faites. Au moins un objet incendiaire qui a été localisé devant un commerce qui laisse croire un incendie criminel. Pour ce qui est des dommages, je vais le prendre note, ils sont mineurs, personne n'a été blessé.
Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Aujourd'hui, c'est du soleil avec des vents du sud-ouest à 20 km/h en PM, maximum 24, avec l'humidex 29. Ça reste dégagé en soirée pour un minimum de 16 degrés. Météo,
fréquence bleue. Pour tout savoir ce qui se passe dans notre région, des nouvelles fraîches, des perspectives claires, une station. Siki FM. Notre engagement, vous livrez l'information sans compromis. Avec François Tremblay, c'est Bonjour Montmagny.
C'est présentement 16 degrés au mercure. On devrait atteindre lentement mais sûrement 24 et ressentir un 29 degrés. Le milieu de la finance sent un certain soulagement au ressenti alors qu'on a annoncé une baisse des taux directeurs. Eh bien, cette baisse-là nous ravit. Et je vous propose dans quelques instants d'entendre une stratège à la Banque nationale du Canada, Stéphane Marion, un stratège. Il est aussi vice-président exécutif des marchés financiers. Donc, la Banque du Canada qui doit faire une annonce aujourd'hui. Mon enthousiasme juvénile a dit que ça allait baisser, mais semble-t-il que oui. Donc, on attend confirmation. Annonce aujourd'hui quant au taux directeur. La plupart des économistes ont nié, s'attendent à une troisième baisse de suite. Et pour analyser tout ça, ben, il y a M. Marion qui s'entretenait là il y a peu de temps, d'ailleurs, il y a quelques minutes, au micro de Patrick Lagacé. Je vous le fais entendre à l'instant.
Des bonnes nouvelles sur le front des taux d'intérêt parce que la Banque du Canada, dans quelques instants, va probablement annoncer une baisse du taux directeur. Il y a un consensus chez les économistes à l'effet que ça va baisser et ça va continuer de baisser. Stéphane Marion est économiste et stratège en chef à la Banque nationale du Canada. Il est vice-président exécutif des marchés financiers. Monsieur Marion, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, pour vous, j'imagine que c'est clair, il y aura une baisse des taux d'intérêt.
Oh, absolument. Écoutez, on a une économie qui en arrache. Faut bien comprendre que la vitesse de croisière normale, c'est une croissance de 2,5%. Or, au dernier trimestre, qui a été publié vendredi passé, on a roulé à 2,1%. Puis on semble être au point mort. Donc, pas de croissance au troisième trimestre. Donc, vous comprenez qu'on baisse les taux parce que ça va pas bien.
Et d'après vous, est-ce que ça va se poursuivre? Il y a des économistes qui voient la baisse des taux d'intérêt, des taux directeurs là, jusque très tard en 2025.
Ben, moi, je vais vous donner un niveau. Je pense qu'on s'en va vers le 3%. Puis après ça, c'est une question de vitesse à laquelle ils vont être obligés de baisser les taux. Si l'économie, effectivement, est au point mort au troisième trimestre, il se peut qu'il soit obligé d'accélérer la cadence. Donc, je vous dirais, la prévision la plus facile à faire présentement, c'est on se dirige vers 3%. Ce qui est plus difficile à dire, c'est à quelle vitesse on va y aller. Mais il est fort probable, M. Lagacé, que la Banque du Canada soit obligée d'augmenter la cadence dans les prochains mois.
Qu'est-ce qui pousserait la Banque du Canada, d'après vous, à augmenter la cadence de baisse des taux d'intérêt?
Oh, l'inflation baisse rapidement, ça surprend tout le monde. Puis, vous savez, M. Lagacé, la Banque du Canada elle-même a publié une étude à l'effet que une des variables principales pour déterminer où l'inflation s'en va, c'est le taux de chômage chez les jeunes hommes, en particulier les jeunes hommes. Or, ce taux de chômage-là s'établit maintenant à 16%, ce qui n'est jamais vu dans une décennie. Donc, dans ce contexte-là, si l'inflation n'est pas une menace, sachant que la mission principale de la Banque du Canada, c'est l'inflation, bien, ils n'auront pas le choix de baisser les taux.
Là, je regardais les statistiques de chômage, vous voulez l'évoquer, pour les jeunes hommes. Chez les 15-24, en général, hommes et femmes, c'est à 13,5%. Donnez aux gens qui nous écoutent là une sorte d'ordre de grandeur. Il me semble que c'est très élevé.
Ben, écoutez, on devrait, pour les hommes en particulier, les jeunes hommes, là, qui est le principal déterminant pour l'inflation, selon la Banque du Canada, encore une fois, on devrait être autour de 12 %. 16 %, c'est très rare qu'on le voit. Qui plus est, il y a tout le taux de chômage des nouveaux immigrants aussi qui est en forte hausse, donc légèrement au-delà du 16 %, autour de 14-13 % aussi. Mais ce sont des variables clés avec lesquelles la Banque du Canada doit composer et qu'elle ne peut ignorer.
Monsieur Marion, dans la presse aujourd'hui, il y a une lettre de deux économistes, Pierre Fortin et Diane Bellemare, qui est aussi sénatrice. Et ce que ces deux économistes disent, c'est que la Banque du Canada focalise peut-être un peu trop sur l'inflation dans sa gestion du taux directeur, des taux d'intérêt, et pas assez sur le chômage et sur le PIB par habitant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Écoutez, avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Pierre Fortin, je comprends ce qu'il dit, puis en théorie, c'est peut-être pas faux, mais il faudrait changer la mission de la Banque du Canada. Or, vous savez comment ça peut être complexe, et si on change la mission de la Banque du Canada, il y a des dangers que la politique s'immisce dans le processus monétaire. Moi, je préfère que la Banque du Canada garde son indépendance par rapport à l'inflation, puis que c'est une mission simple. Par contre, je vais vous dire une chose, M. Lagacé, un des critères qui a amené beaucoup de volatilité en inflation cette année, c'est la politique d'immigration qui a été inédite avec des croissances qu'on n'a jamais vues, avec des volatilités comme jamais vues. Moi, je vous dirais que la première chose, avant que la Banque du Canada soit capable d'établir sa politique monétaire, c'est au moins de donner plus de prévisibilité au niveau de la croissance démographique au Canada.
En début d'année, justement, parlant de croissance démographique, M. Marion, là, au nom de la Banque nationale, vous avez publié une analyse et vous avez regardé les chiffres de l'immigration et vous avez employé une expression qui a beaucoup fait jaser d'un océan à l'autre. Vous avez parlé d'un piège démographique pour le Canada. Avant qu'on aille plus loin, expliquez ce que vous vouliez dire à l'époque par là.
Ben, moi, j'ai aucun problème à accueillir le plus de gens possible au pays, mais encore faut-il qu'on ait la capacité de pouvoir les laisser exprimer leur productivité en attirant aussi de l'investissement. Or, au Canada, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on attire beaucoup de gens, mais on peine à attirer de l'investissement, ce qui fait en sorte que la productivité est en baisse, M. Agassi. Donc, il y a trop de croissance de population présentement par rapport à l'investissement. Donc, la productivité, ça devient un enjeu majeur parce que le fait que le PIB par personne est en baisse, je vais vous le caractériser, ça voudrait dire que les ménages canadiens dans l'ensemble travaillent plus d'heures pour moins d'argent. C'est ça que ça veut dire que le PIB par capita est en baisse. Donc, on doit éradiquer ce phénomène-là présentement, puis on doit attirer beaucoup d'investissements pour pouvoir permettre aux nouveaux Canadiens d'exprimer leur productivité et avoir des meilleures conditions salariales.
Je lisais une analyse dans un journal canadien-anglais qui montrait, puis j'aimerais vous entendre là-dessus, M. Marion, qu'on admet peut-être au Canada trop de cheap labor. Est-ce que ça contribue à faire baisser le PIB par habitant?
Bien, vous savez, il y a une partie de tout ça qui est tributaire des programmes gouvernementaux qui ont été instaurés pendant la pandémie. Mmh. Si j'envoie des chèques aux gens pour les inciter à garder, à rester à la maison, donc on crée des pénuries de main-d'œuvre qu'on doit essayer d'endiguer avec en faisant venir des gens d'ailleurs dans le monde. Donc, vous savez, c'est peut-être ça où M. Fortin a totalement raison. Si je veux envoyer une politique budgétaire où je suis très généreux, je dis aux gens restez à la maison, mais je vais faire venir des gens de l'étranger pour pallier au fait que vous ne vous présentez pas au travail. On a créé en partie nos propres pénuries de main-d'œuvre, M. Lagacé.
Quand on a envoyé des chèques pendant la pandémie, c'est ce que vous voulez dire?
Ben, on s'aperçoit avec le recul, puis je comprends que les autorités voulaient bien faire, mais on s'aperçoit avec le recul qu'il y a une partie de la pénurie de main-d'œuvre qui était tributaire de la générosité de la politique budgétaire.
Ottawa a annoncé, là, sous beaucoup de pression, et je dirais après beaucoup de gens, là, on arrive très tard dans la game du côté du fédéral, des baisses dans les programmes de travailleurs temporaires. Pour vous, est-ce que ça va faire en sorte qu'on va sortir du piège démographique?
Vous savez, M. Lagacé, j'en ai parlé souvent. Moi, je ne veux pas me prononcer sur le type d'immigration dans certains programmes. Ce que je peux vous dire comme économiste, par contre, c'est qu'à ce moment-ci du cycle, avec la politique monétaire qui demeure restrictive, le fait qu'on n'attire pas assez d'investissements, je pense que la capacité d'absorption de la croissance de la population canadienne, c'est 300 000 à 500 000 individus. Puis je vais laisser aux politiciens le soin de décider quel type d'individu, quel programme ils veulent mettre en place. Mais moi, je peux vous donner le gros chiffre qui vient avec tout ça. Il faudrait qu'il y ait un conseil qui se mette ensemble, quel est le chiffre total qu'on peut faire. Puis après ça, ben, on discute du type de programme qu'on doit bonifier ou pas.
Donc, dépolitiser les cibles en immigration, quoi?
Oh, vous avez totalement raison. Je pense que, et je prône pour la formation, puis ça rejoint peut-être un peu ce que M. Fortin dit. Moi, je prône pour la formation d'un conseil qui puisse guider le gouvernement avec le chiffre total de croissance de population à chaque segment du cycle économique qui permettre justement de ne pas subir les contre-coups là, de baisse de PIB par capita qu'on connaît présentement et le manque d'investissement.
Avant de vous laisser aller, M. Marion, Pierre Fitzgibbon, ça a été annoncé hier, va démissionner. Je me demandais comment vous avez réagi?
J'avais peur que vous me posiez cette question-là, puis je vais vous répondre. Écoutez, j'ai peu travaillé avec M. Fitzgibbon, mais ce que je peux vous dire, que les dossiers qui l'interpellaient autour de la production d'électricité au Québec, c'est crucial, M. Lagacé. Vous savez, c'est très rare, mais dans les derniers mois, le Québec a été l'hiver passé, est obligé de devenir un importateur net d'électricité. Donc, je pense qu'on doit travailler sur, si on veut avoir une croissance digne de ce nom au Québec, on doit avoir une structure de production électrique qui soit plus prévisible. Puis, je pense que le dossier qui est entamé par M. Fitzgibbon, je pense qu'il y a quelqu'un compétent qui pourra prendre sa relève.
Merci d'avoir été avec nous, M. Marion. Je souhaite une bonne journée.
Merci, M. Lagacé.
Avant la fin de l'automne, je vais passer une dernière fin de semaine au camping, racler le terrain, vider la piscine, préparer la headset pour l'hiver, monter l'abri, magasiner l'équipement de hockey pour mon gars, prendre des cours de conduite pour ma fille, faire un tour au Saguenay, faire le